Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après les chiffres, les témoignages. Un demi-million d'emplois supprimés en France et le couperet qui tombe encore pour les centaines de salariés. Vous entendrez les craintes de ceux qui travaillaient jusque-là pour Eurolines. La liquidation judiciaire est demandée. Vous entendrez aussi les inquiétudes de ceux qui restent dans des conditions dégradées. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se penche sur l'après-crise sanitaire à l'Élysée.
Christophe Castaner a tenté de désamorcer la colère des policiers hier sans succès. Les forces de l'ordre ne veulent pas abandonner certaines techniques d'interpellation, nous y reviendrons.
Dans ce journal aussi, la Libye. 8 charniers ont été découverts dans l'ouest du pays, zone occupée il y a peu par le maréchal Haftar. Les Européens se désolidarisent.
Et puis, comment reprendre les tournages de films avec les gestes sanitaires ? Hollywood rouvre aujourd'hui en petit comité, vous le comprendrez.
Après cette édition, Frédéric Seitz reviendra sur un étonnant compromis entre les communistes et les marcheurs cette semaine à l'Assemblée. Son billet politique à 8h17. Et nous commençons ce journal par un témoignage concret de ce que vont être les mois à venir pour de nombreux salariés. La perte d'un emploi dans une entreprise officiellement touchée par la crise économique à cause du confinement, en tout cas dans une entreprise en difficulté. La compagnie française de car Macron, Eurolines, vient d'apprendre le projet de sa maison mère, Flixbus, à savoir une liquidation judiciaire. Près de 110 salariés vont perdre leur emploi. 1 sur 3 a plus de 30 ans d'expérience et donc, a priori, la cinquantaine passée, Yvan Plantey a pu joindre Elisabeth Mel, futur ex-salarié d'Eurolines, à l'avenir plus qu'incertain.
37 ans et demi que je travaille dans les lignes internationales, donc vous voyez, c'est pas deux jours, c'est vraiment toute une vie. Hein. Il faut que je trouve un travail, même genre, il faut absolument que je trouve quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, bah, c'est la fin de ma carrière, j'ai 59 ans, je m'en fiche. Mais moi, je vais avoir que 57 ans à la fin de l'année. Je suis trop jeune et en même temps, je suis trop vieille. C'est fou. Ma fille qui a 28 ans, elle a la recherche d'un emploi. Alors, je me dis, elle qui a 28 ans, elle envoie 300 CV, elle n'a pas de réponse. Moi, à 57 ans, qu'est-ce que je vais faire?
C'est pour éviter les licenciements secs que d'autres entreprises se permettent de prendre des mesures exceptionnelles pour un moment exceptionnel. Derichebourg Aeronautics Service, par exemple, c'est l'un des principaux sous-traitants d'Airbus qui voit ses commandes baisser de moitié. La direction a donc demandé aux salariés de renoncer à certains avantages dans le cadre d'un accord de performance collective, accord qui doit être signé aujourd'hui et qui divise les syndicats près de Toulouse. Stéphane Iglesis s'est rendu dans l'usine.
Derichebourg Aeronautics Service est un sous-traitant de premier plan pour Airbus présent sur les principales chaînes de montage de l'avionneur. L'entreprise estime ne pas avoir le choix. Pascal Lanette, PDG de Derichebourg Aeronautics.
Je vois la sortie de la crise dans 2 ans. Je pense qu'on la peut passer sans un PSE en se serrant la ceinture. Et donc ceux qui voudront rester, accepter ces conditions, mais écoutez, on fera tout commercialement, opérationnellement, humainement, ensemble, pour que ça se passe bien.
Philippe Faucard, délégué UNSA aérien, dénonce cet accord de performance collective qui va impacter les salariés et qui arrive trop tôt.
Le fait majeur, c'est la suppression des indemnités de transport, la suppression des indemnités repas avec en compensation des tickets restaurants à hauteur de 60% payés par l'employeur. Le demi-13e mois du mois de juin qui serait repoussé en novembre et la perte définitive du 13e mois pour les salariés 2,5 fois le SMIC, donc à 3 800 € bruts.
Jean-Marc Moreau, secrétaire du syndicat FO, majoritaire dans l'entreprise, estime avoir sauvé l'essentiel.
Tous les CDI seront sauvés. Pas de licenciement économique avant juin 2022. On espère que d'ici là, l'activité sera repartie à la hausse. On a quand même une aide au départ pour les personnes les plus âgées. On maintient le salaire des salariés au chômage partiel à hauteur de 70% brut, 84% net, quel que soit l'engagement que l'État prendra derrière.
Les syndicats qui contestent ce plan craignent la généralisation de ce type d'accord qui réduit les acquis sociaux dans de nombreuses entreprises du secteur aéronautique.
C'était Stéphane Iglesis pour France Culture. Et Christophe Castaner est bien à la peine face aux policiers. Les premiers entretiens que le ministre de l'Intérieur a eus hier avec leurs représentants syndicaux ont donné lieu à des réactions encore virulentes. À lui de regravir l'Everest de la confiance, a notamment lancé le secrétaire général de Unité SGP Police, qui appelle ses collègues à ne plus interpeller, à ne plus intervenir. Hier soir, des rassemblements de policiers ont eu lieu à Saint-Étienne, Marseille, Nice, Bordeaux, Bobigny, Toulouse ou Lille. Face aux accusations de racisme, il regrette également que le ministre ne les soutienne pas davantage et ses excuses hier sur les mots employés n'y ont rien changé. Les syndicats de policiers dénoncent également les changements proposés dans les méthodes d'interpellation pour éviter les violences. La clé d'étranglement a été remise en cause par le ministre de l'Intérieur pour la remplacer par le taser, un pistolet à impulsion électrique. David Lebars, du syndicat des commissaires de la police nationale, ne le trouve pas pertinent.
Les annonces techniques étaient relativement incomplètes et il faut se rappeler que le métier de policier, c'est un métier très compliqué qui ne permet pas d'annoncer des choses techniques imprécises et d'imaginer que les policiers vont s'adapter sur le terrain aussi facilement qu'on le croit. Donc on va aller discuter plus en détail avec le ministre sur ses intentions. Je vais vous donner un cas de figure. Vous êtes dans une foule compacte, par exemple dans le métro, dans une salle de spectacle, et il se commet un délit grave. L'usage du pistolet électrique n'est pas approprié dans une foule compacte. Parfois, il faut aller isoler quelqu'un et parfois, il faut employer la manière forte si la personne en face est récalcitrante. On ne peut pas non plus procéder à un balayage sur un quai de métro au risque de faire tomber quelqu'un sur les voies. Donc, tout est une question de circonstances. Il faut laisser un peu de marge de manœuvre aux policiers. Il faut évidemment sécuriser les interventions. Il n'est évidemment pas question de garder des gestes qui pourraient être des gestes dangereux. Mais il faut aussi considérer que le métier est compliqué et que ceux qui ne veulent pas se laisser interpeller sont ceux qui créent les problèmes et les polémiques.
Des propos recueillis par Margot Delpierre. Les discussions se poursuivent aujourd'hui encore au ministère de l'Intérieur où Christophe Castaner pourrait finalement revenir sur la suppression de la clé d'étranglement. Mais avant cela, dans la matinée, réunion au sommet à l'Élysée. Emmanuel Macron réunit à 10h le conseil scientifique avant un nouveau conseil de défense à partir de 11h. L'exécutif pourrait ensuite annoncer un assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles primaires en élargissant la règle des 15 élèves par classe. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'y est déjà dit favorable. Le président de la République s'exprimera ensuite dimanche à 20h et il pourrait à cette occasion permettre la réouverture complète des bars, des cafés et des restaurants, notamment en Île-de-France, qui était jusque-là zone orange. Car en zone orange, l'Île-de-France, justement, seules les terrasses peuvent ouvrir pour le moment et le mauvais temps n'aide pas les restaurateurs. La fraîcheur rafraîchit les touristes et les flâneurs. Cela a aussi, et oui, une incidence sur les personnes qui vivent dans la rue. Difficile confinement pour ces personnes qui se sont retrouvées encore plus seules, ne pouvant compter que sur les rares associations encore dehors pour pouvoir survivre et pouvoir sourire. Écoutez donc Gisèle à Paris qui a notamment souffert de la fermeture des douches et des toilettes publiques.
Les toilettes, c'est infernal. Vous rendez compte des vieilles comme moi, entre guillemets, handicapées, invalides. Être obligé de se cacher pour faire pipi, enfin...
Est-ce que pendant la période du confinement, les gens venaient vous voir quand même, s'intéresser un peu à vous, en dehors des associations?
Non. À part, entre autres, la maraude là, que vous voyez, qui m'a vraiment beaucoup soutenue, comment dirais-je, la goélette, dont j'ai une reconnaissance d'autant plus forte, parce que je suis hypersensible. Et ils m'ont fait un gâteau d'anniversaire, un petit gâteau avec deux bougies. Et ça, vous savez, c'est indélébile. Parfois, j'oublie le mal qu'on m'a fait, mais le bien, j'oublie pas. Jamais. Donc, pour ça, je souligne la goélette. Je fais pas de la pub, je parle avec mon cœur. Et les associations, elles pensent qu'elles peuvent. Donc, je vois les Restos du Cœur, je vois la goélette. Et actuellement, c'est surtout les deux associations que je côtoie le plus.
Les propos recueillis par Ilan Malka, qui s'est intéressé plus largement aux associations en première ligne contre l'exclusion pendant la crise du nouveau coronavirus. C'est le thème du grand reportage qui sera diffusé à partir de 17h aujourd'hui sur France Culture. Grand reportage d'Ilan Malka qui a été réalisé grâce à Annie Bro et qui sera suivi d'une discussion autour du président de la Fédération française des banques alimentaires, Jacques Bellet. Discussion animée par Aurélie Kiefer.
En attendant, il est 8h09 sur France Culture et c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une réunion ministérielle sur la coalition pour le Sahel se tient cet après-midi.
Oui, par visioconférence à un mois du prochain sommet du G5 Sahel en Mauritanie. Et la France, aujourd'hui, arrivera forte de nouvelles réussites militaires et politiques, Nathalie Hernandez.
L'élimination la semaine dernière au Nord-Mali de l'émir d'Acmi, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, est évidemment un succès. Mais pas question de faire de grandes déclarations de victoire pour l'Élysée. L'objectif va au-delà du militaire. D'une part, dans l'accompagnement et la reconstruction des armées sahéliennes, de l'autre, dans la mise en œuvre de projets de développement, le retour des services de l'État ou encore la formation de magistrats. Depuis près de 6 mois, il y a bien eu des avancées en raison d'une meilleure coordination et coopération entre forces armées françaises et africaines dans des actions concentrées sur la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Résultat, des zones occupées par des combattants terroristes ont été récupérées. L'État islamique au Grand Sahara se voit aujourd'hui affaibli, ajoute la présidence. Il n'est plus en mesure de mener des actions d'ensemble. Il reste à consolider tous ses efforts. Il faudra pour cela que la volonté politique de tous les acteurs soit réaffirmée sans hésitation lors du sommet de Nouakchott en Mauritanie.
Sur ce terrain-là, les velléités politiques des intervenants divergent et plongent un peu plus la Libye dans le chaos. Nous apprenions hier soir la découverte de 8 charniers dans l'ouest du pays. L'ONU se dit horrifiée. Ces charniers se trouvent dans l'ouest libyen, dernier fief du maréchal Haftar qui a été pris par les forces gouvernementales la semaine dernière. Le maréchal Haftar, un temps appuyé par les Européens, est en difficulté et son attitude dérange ses anciens soutiens. D'autant qu'en face, le gouvernement de Tripoli, lui, est soutenu par les Turcs qui en profitent sur le plan migratoire au Marouaman.
Pour les Européens, le scénario qui se dessine en Libye a des airs de déjà-vu et a de quoi donner des sueurs froides. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan, habituée du chantage migratoire, est sur le point de contrôler une nouvelle route en Méditerranée. Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS.
Le verrou dont il dispose sur la mer Égée et celui en Libye sont complémentaires.
En soutenant militairement le gouvernement de Tripoli, Ankara s'est imposé comme un acteur incontournable de cette crise libyenne et pourrait soumettre l'Europe a de nouvelles exigences.
Je crois qu'il n'y aura pas d'hésitation, comme il n'y en a pas eu quand il y avait 4 millions de Syriens qui se pressaient aux portes de l'Europe, qui a accepté de verser plusieurs milliards d'euros à Erdogan pour qu'il retienne les migrants. Donc on peut imaginer que la Turquie va recommencer la même manœuvre.
Une stratégie de pression rejetée par les Européens et notamment par la France. Paris, qui voyait dans le maréchal Haftar un rempart contre le terrorisme, doit rebattre ses cartes en Libye.
Je pense que la France peut se mordre les doigts aujourd'hui d'avoir fait des erreurs d'appréciation en appuyant le maréchal Haftar qui s'est révélé être finalement un piètre atout.
La Russie et l'Égypte également soutiennent le soutien du maréchal Haftar s'activerait, selon plusieurs sources, pour lui trouver un successeur afin de permettre un retour à la table des négociations.
Du changement précisé en Irak, au cours des prochains mois, les États-Unis vont continuer à réduire leur présence militaire sur place contre le groupe djihadiste État islamique. La déclaration conjointe entre Washington et Bagdad a été faite cette nuit. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, Donald Trump et Kim Jong-un signaient à Singapour un document pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Espoir inédit qui, 2 ans plus tard, semble n'avoir jamais eu lieu. Aucune ligne n'a bougé et une nouvelle figure émerge même du côté du dirigeant nord-coréen et à ses côtés, il s'agit en fait de Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Bertrand Galichet.
De cette jeune femme d'une 30aine d'années, souvent présentée un peu vite comme la dauphine du dictateur nord-coréen, on sait surtout ce que le régime veut bien en montrer. Antoine Bondaz, directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Au sein du régime, elle est vice-directrice d'un département en charge du culte de la personnalité de Kim Jong-un, le département de l'agitation et de la propagande du Parti des travailleurs de Corée. Elle ne fait donc pas partie du leadership vraiment de plus haut niveau en Corée du Nord, mais surtout, elle apparaît avant tout en soutien à son frère. Elle a un rôle de plus en plus important. Mais elle est loin d'être la numéro 2 du régime. Sa légitimité, elle la tient avant tout du caractère dynastique de sa personnalité. C'est la petite sœur de Kim Jong-un.
Difficile d'imaginer que Kim Yo-jong accède aux plus hautes responsabilités dans une société aussi patriarcale. Mais depuis qu'elle a représenté le régime aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en 2018, la Corée du Nord l'utilise de plus en plus pour sa communication internationale. Ses interventions officielles sur les relations entre les deux Corées ne sont jamais des initiatives personnelles.
La sœur de Kim Jong-un, voilà peut-être une histoire à porter sur le grand écran. Encore faudrait-il que les tournages reprennent. À Hollywood, la Californie a donné son accord pour une réouverture des studios après la perte de plusieurs milliards de dollars et surtout de centaines de milliers d'emplois. Les tournages peuvent officiellement reprendre à partir d'aujourd'hui, mais ce n'est pas si simple, Loïc Piala.
L'hebdomadaire spécialisé Variety pose la question. La Californie est prête à reprendre les tournages, mais est-ce le cas d'Hollywood? Pour Babacar Diène de Voltage Pictures, la société qui a produit les films oscarisés Des Mineurs ou Dallas Buyers Club, la réponse est non.
Vous savez, pour préparer un film, il faut au moins 4 à 6 semaines. Donc oui, peut-être qu'il y aura des tournages dans 4 ou 6 semaines, ou des choses qui vont se tourner dans les studios. Vous ne pouvez pas embaucher de gens, vous ne pouvez pas aller trouver les lieux de tournage et tout ça. C'est ça qui prend 4 à 6 semaines.
Et quand les équipes reviendront sur les plateaux, elles trouveront des conditions de travail très différentes. Protocole détaillé dans un document de 22 pages, préparé par les syndicats et les studios. Port du masque obligatoire, sauf pour les acteurs face caméra, sitcom tournée sans public, casting virtuel, scénario sur ordinateur plutôt que sur papier, prise de température régulière, agents chargés de surveiller le respect des règles. Mais maquilleurs et costumiers savent déjà que certains gestes barrières sont impossibles dans leur profession. Ajoutés à des tournages plus longs et à des polices d'assurance plus élevées, ces changements pourraient augmenter les coûts de production de 20%. Des scénaristes sont quant à eux invités à réduire les scènes comprenant trop de figurants, de bagarres ou de sexe, même si Hollywood n'exclut pas le recours aux effets spéciaux pour faire illusion.
Pas d'illusion côté ciel. Ce vendredi, la vigilance pour pluie et inondations est maintenue dans 9 départements, principalement en Bretagne et en Auvergne. Seuls les bords de Méditerranée seront au sec aujourd'hui. Et ce matin, il fait 15 degrés à Nantes et Bordeaux, 18 à Paris, 21 à Lille et Lyon, 22 degrés à Perpignan, 25 déjà sur la Corse.